Voici ce très court psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, tous les serviteurs de l'Éternel, ceux qui se tiennent dans la maison de l'Éternel dans les nuits. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Et l'Éternel, il te bénira de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Si vous ouvrez n'importe quel commentaire de ce psaume, on vous expliquera d'une façon très docte qu'il y a deux parties. La première qui s'adresse au « vous » et la dernière à « au tu ». Et que la première qui s'adresse au « vous », ça s'adresse au prêtre, c'est-à-dire « levez les mains vers le sanctuaire, bénissez Dieu, prosternez-vous devant lui ». Et à la fin, on s'adresse au contraire aux fidèles. C'est la réponse des hommes de sainteté, autrement dit, qui disent simplement aux fidèles, « Dieu, il te bénira de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. » Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je crois que ces commentaires ont tous tort du début à la fin sur ce point et sur d'autres. D'abord parce que cela supposerait une sorte de séparation des rôles. Comme si on disait aux prêtres, bon, allez-y les gars, hein, bénissez Dieu, levez les mains vers le sanctuaire, prosternez-vous, et pendant ce temps-là, moi je pourrais faire autre chose. Et puis que le rôle de ces prêtres, ce soit uniquement ensuite de revenir vers le peuple en disant, vous inquiétez pas mes lapins, Dieu te bénit. Eh bien, cette conception de la religion me semble absurde. Parce qu'elle est tout à fait incohérente par rapport au reste même de l'Écriture et par rapport à ma propre conviction que j'ai pu en tirer. C'est qu'en fait, il n'y a pas de rôle différent dans l'humanité. Il n'y a pas des gens dont le travail serait d'adorer Dieu et d'autres d'agir dans le monde. Il n'y a pas des gens qui ne pourraient pas, nous, hommes du monde, je dirais, se dire « je suis dispensé d'adorer Dieu dans le sanctuaire parce qu'il y a des gens qui pratiquent l'adoration pendant ce temps-là et qui prient à ma place ». Je ne crois pas qu'on puisse, dans le domaine spirituel, prier ou adorer à la place des autres. C'est comme pour toutes sortes d'ailleurs d'alimentation ou de sport. Vous ne pouvez pas dire « je n'ai pas besoin de faire de sport parce que j'ai les coureurs du Tour de France qui en font à ma place ». Vous n'en aurez aucun bienfait. Et c'est pareil aussi pour la nourriture. Si vous ne mangez pas et que votre voisin mange, ça ne vous nourrira pas. Donc je pense au contraire que chacun est invité à louer Dieu et que par conséquent ce psaume du début à la fin s'adresse aux fidèles, tout simplement. Et que nous sommes tous invités, donc, à bénir l'Éternel dans sa maison, à lever nos mains vers lui et à le bénir sans cesse. Et d'ailleurs, c'est assez cohérent parce que ce psaume a un titre qui est d'ailleurs souvent oublié, curieusement, certaines traductions l'enlèvent en pensant que ça n'a aucune importance. Mais non, rien n'est sans importance dans l'Écriture. Ce titre, c'est « Cantique des degrés » ou « Chant pour monter ». Alors là encore, vous reprenez votre commentaire biblique et on va vous expliquer très doctement que ce titre n'a à peu près aucun intérêt, que c'est juste une mention historique pour dire que c'était les chants que l'on chantait lorsque l'on faisait les pèlerinages à Jérusalem. Donc lorsque les gens montaient à Jérusalem, pendant cette montée en pèlerinage à Jérusalem, eh bien, ils chantaient ce cantique. Bon, j'en suis très content. Ou alors, d'autres disent, non, c'est que en fait, le temple est sur une colline, à Sion, et qu'il y a des grands escaliers qui y montent, et que donc, il y avait des processions, et que pendant qu'on montait ces escaliers, qu'on appelait en vieux français les degrés, hein, donc pour ça qu'on appelle ça les psaumes des degrés, eh bien, pendant qu'on montait ces escaliers, on chantait ces psaumes de louange à Dieu. Là encore, ça me laisse totalement indifférent, parce que personnellement, je ne monte pas très souvent les escaliers du Temple de Jérusalem. Je crois que j'ai fait une fois quand même, mais j'ai même omis de chanter ces psaumes. Et d'autre part, je ne monte pas souvent à Jérusalem comme on monterait à la grande ville. Et si le sens de ce psaume était cela, alors il n'y aurait même pas à le lire, on serait totalement hors contexte. Mais je pense que, là encore, il faut interpréter. Cantique pour monter. Et je pense qu'il ne s'agit pas forcément de faire un pèlerinage, mais de s'élever à Dieu. C'est donc tous ces psaumes qui sont entre les 120 et 134 sont des psaumes qui sont là, qui nous expliquent comment on peut faire pour s'élever à Dieu, pour s'élever spirituellement. C'est un psaume pour monter vers Dieu. Et là, on a le dernier des psaumes, des montées. le psaume 134. Le dernier, le plus court, qui est comme la conclusion de ce cycle des psaumes pour s'élever vers Dieu, et qui, je crois, nous donne là, en trois versets, le condensé, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour s'élever vers Dieu. Et là, l'ordre est clair. C'est « bénissez ». Bénissez l'Éternel. C'est dit un nombre incalculable de fois. Bénissez l'Éternel, bénissez-le, bénissez-le. Bénir. Et c'est important, d'autant plus que la forme du verbe hébreu, là, est une forme intensive. C'est-à-dire, c'est pas bénissez comme ça, oui, je te bénis. C'est bénissez l'Éternel. Vous, les serviteurs. Eh bien, c'est ça la clé. Bénir l'Éternel et se dire serviteur. Alors, ça peut sembler sans grande importance, et le mot bénir fait partie de ces mots du patois de l'Église que l'on utilise sans cesse, mais dont on ne sait plus très bien ce qu'il signifie. Et en fait, c'est important. Et c'est d'autant plus important que, si vous avez le texte sous les yeux ou si vous regarderez plus tard chez vous, vous verrez qu'avant cet ordre « bénissez l'Éternel », il y a un tout petit mot « voici ». Et ce « voici », c'est une petite leçon d'exégèse, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle en exégèse un marqueur prophétique. C'est ce que l'on trouve sans arrêt dans le livre des prophètes, du prophète Ésaïe en particulier. Quand Dieu va dire quelque chose de très important, d'essentiel, il dit « voici ». « Voici ce que dit l'Éternel ». Et là, quand le psaume commence en disant « voici », ça veut dire « attention, là, ne rigolez pas ». C'est vraiment la révélation la plus essentielle de ce que Dieu a à vous dire. Et voici, bénissez l'Éternel, tous les serviteurs de l'Éternel. Alors bénir, qu'est-ce que cela veut dire? Je l'ai déjà développé à différentes occasions, je vais juste vous le résumer. Bénir, ça se dit barak en hébreu, c'est comme en arabe, la baraka, celui qui est béni. Et ça vient du mot berek, qui est le genou. Et que par conséquent, bénir, c'est s'agenouiller, voilà, s'abaisser. Et bénir, c'est le serviteur qui vient vers son roi et qui s'agenouille devant son roi pour dire « Je suis ton serviteur, je suis à tes ordres et à ta merci, en quelque sorte. » Et tiens, voilà qui est curieux. Voilà que pour monter, je dois commencer par me baisser, c'est-à-dire par m'agenouiller. Et donc, déjà, vous voyez, je vous ai bien dit que c'était important. Vous avez envie de vous élever spirituellement, vous avez envie de monter vers Dieu, eh bien, première chose à faire, agenouillez-vous, baissez-vous. Parce que la vie spirituelle n'est pas un championnat de sainteté. Ce n'est pas dit redoubler d'énergie, de force, de talent pour commenter la Bible, prier plus que les autres, pratiquer avec plus de ferveur et d'énergie. Non. Humiliez-vous devant l'Éternel. Et ainsi, ce n'est pas d'essayer de grimper vers la sainteté, mais au contraire, de s'humilier, pas comme ça pour le plaisir, mais de s'humilier devant Dieu pour recevoir de lui. Parce qu'en effet, tous les dons essentiels de notre vie, ce n'est pas nous qui les avons par la force du poignet, mais c'est nous qui les recevons d'un plus grand que nous. Et la première posture du croyant, c'est de se dire « il y a un plus grand que moi, il y a un Dieu qui est plus grand que moi ». C'est-à-dire « je ne suis pas le sommet du monde, je ne suis même pas le sommet de ma propre vie, mais ma vie est surplombée par quelque chose ou quelqu'un ou une réalité qui est plus grande que moi ». Et je dis « oui, il y a un Dieu, l'Éternel, qui est plus grand que moi ». C'est en ce sens que on retrouve cela dans l'Évangile, et je vous l'ai lu tout à l'heure en Matthieu, quand Jésus dit cette phrase curieuse, « Qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé ». Oui, ce n'est pas par plaisir de contradiction, mais c'est parce que « qui s'élève sera abaissé » parce que de toute façon, on ne peut jamais s'élever au-dessus de tout, ni au-dessus des autres, ni au-dessus des événements, ni au-dessus de Dieu. C'est-à-dire que celui qui prétend vouloir s'élever par ses propres forces et sa propre réussite, de toute façon, un jour ou l'autre, la réalité le rattrapera et lui mettra une grande claque dans le visage pour lui dire « Mon ami, tu n'es pas le plus grand, ni le plus fort, ni le supérieur à tout. » Et c'est bien ça, qui veut s'élever sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse et qui dit « oui, je suis peu de chose et je fais ce que je peux, je ne suis pas rien, mais je ne suis pas le sommet de tout, et il y a une réalité ultime qui me dépasse, dont je veux me faire le serviteur. » Et c'est là, j'aime aussi ce mot qui est là, ce mot « serviteur ». Parce que je vous l'ai dit, bénir, c'est s'agenouiller devant son maître et dire « je suis ton serviteur ». Et là, le mot y est « bénissez l'Éternel, tous serviteurs de l'Éternel ». Le mot de serviteur est tout à fait magnifique. En effet, se dire que l'on doit servir une cause plus grande que soi, servir un autre, eh bien, c'est donner un sens à sa vie et attacher sa vie à celui qui est immortel, éternel et absolu. Et je crois que c'est une grande chance. Et c'est aussi, je crois, une vieille tradition protestante. Il paraît que On m'a dit donc, que dans certaines régions, on enseignait aux protestants que la première chose qu'ils devaient faire avant même, en se réveillant le matin, avant même de poser le pied par terre du lit, de dire « Voici Seigneur, je suis ton serviteur » ou « Voici, je suis ton serviteur » et on se lève. Et c'est se lever dans de bonnes dispositions. Je ne suis pas au service de moi-même, je suis au service de quelque chose d'autre. Et je crois bien que tous nos problèmes ou toute la souffrance que donnent nos problèmes viennent du fait que l'on se met au centre de tout, c'est-à-dire qu'on croit que c'est nous qui sommes plus importants que tout le reste. Les problèmes des autres, on s'en fiche, les nôtres nous touchent. Et en fait, la bonne méthode, c'est de dire « je ne suis pas le centre, mais il y a un autre centre qui est Dieu lui-même ». Donc le serviteur bénit l'Éternel, je me mets à genoux devant le Seigneur, et le Seigneur, le roi, en réponse, bénit son serviteur, puisque le mot bénir va dans les deux sens. Vous voyez, on bénit Dieu et Dieu vous bénit. Donc, ça va dans les deux sens. Et la bénédiction de Dieu, c'est la réponse en disant, le Seigneur dit au serviteur, « Eh bien, je te donne la vie sauve et je te donne une mission. » C'est-à-dire, je t'envoie en mission, je te considère comme digne de pouvoir travailler pour moi, batailler pour moi peut-être, et il donne à son serviteur la mission et tout ce qu'il faut pour la remplir. C'est cela, la bénédiction. Quand on donne la bénédiction à la fin du culte, c'est de dire « Allez mes amis, Dieu vous accompagne, il vous relève, il vous fait confiance et il vous envoie dans le monde comme ses serviteurs, et en vous donnant tout ce qu'il faut pour arriver à vivre et à le servir. » Eh bien, c'est ça l'essentiel, Dieu qui relève et envoie en mission. Et le psaume continue donc en disant « Ceux qui se tiennent dans la maison de l'Éternel, ceux qui se tiennent dans la maison de l'Éternel. » Là encore, je vous l'ai dit, il ne s'agit pas du privilège des prêtres ou des pasteurs, il ne s'agit pas d'aller au temple ou à l'église, mais se tenir dans la maison de l'Éternel, ça veut dire être dans l'intimité de la maison de l'Éternel, dans l'intimité de Dieu, tout simplement. Et ça, c'est, je crois, autre chose qu'il faut apprendre à avoir. Si on veut s'élever vers Dieu, il faut simplement aller s'installer dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire rentrer dans son intimité. Et ça n'est pas évident, hein. Moi, je ne suis jamais rentré dans la maison des grands de ce monde. Je ne suis jamais allé à l'Élysée, ni à d'autres endroits prestigieux. Je ne suis pas rentré dans la chambre à coucher de Barack Obama ou d'autres choses. Mais là, nous sommes invités à entrer dans la maison de l'Éternel. Et c'est une chose importante que tout le monde ne peut pas comprendre, parce qu'on peut l'entendre de deux manières. La première, qui n'est pas évidente pour tout le monde, je vous le disais, c'est de l'entendre affectivement. C'est-à-dire de rechercher cette intimité, cette proximité affective avec Dieu. Et je vous dis, il y a des gens qui ne sont pas mystiques, donc ne comprennent rien à ça, mais j'ai quelque chose pour eux tout à l'heure. Pour l'instant, restons-en là-dedans. Et j'ai fait l'autre jour un mariage, cet été, et le jeune que je mariais, je lui ai dit, mais alors, pour toi, c'est quoi, pourquoi c'est important la foi? Et il m'a dit une chose que je n'aurais pas dite, mais qui me semble vraie. Il m'a dit, pour moi, c'est simple, Dieu, c'est mon pote. Eh ben, c'est, pour moi, c'est curieux, mais en même temps, il a dit d'une façon rugueuse quelque chose d'extrêmement important. Dieu, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. C'est celui qui m'aime, qui m'accompagne, celui sur qui je peux compter, celui qui m'accompagne partout, qui ne m'abandonne jamais, qui est toujours à l'écoute et toujours près de moi. Eh bien, c'est ça. Habiter la maison de l'Éternel, se mettre dans sa maison, eh bien, c'est ça, c'est chercher cette intimité avec Dieu, cette proximité avec lui. Alors, pour ceux qui ne sont pas mystiques, je vous disais, on peut l'entendre intellectuellement et dire demeurer chez Dieu, c'est-à-dire demeurer dans ses idées, c'est-à-dire dans l'Évangile. Et on peut dire, je fais de l'Évangile ma maison. L'Évangile, c'est ma patrie. Comme certains qui sont des croyants ou des chrétiens ou des protestants plus très pratiquants disent, les valeurs de l'Évangile, c'est ma maison, c'est mon identité, c'est moi, quoi, c'est là où j'habite. Je demeure dans une sorte de maison globale qui est faite de valeurs, de convictions, de façons de vivre qui finalement me définissent, c'est-à-dire d'être dans cette proximité intellectuelle avec l'Évangile. Pourquoi pas ? C'est aussi, je crois, une autre manière de s'élever à Dieu. Dans tous les cas, c'est d'être dans cette proximité avec Dieu, qu'elle soit intellectuelle ou affective, et encore mieux les deux. Et là, le psaume rajoute, bizarrement, « pendant les nuits ». Pendant les nuits, ça c'est assez curieux, et j'ai là encore plusieurs solutions. Et ça tombe bien d'ailleurs, puisqu'il a mis « nuit » au pluriel. Il aurait pu mettre « pendant la nuit », mais c'est « pendant les nuits ». Alors, « pendant les nuits », ce peut être, dans la Bible, la nuit, ça peut être deux choses. Ça peut être d'abord le moment de l'étude, c'est-à-dire que le jour, on travaille, on agit, et la nuit, on étudie la Torah. Et donc, si c'est pendant la nuit, ça veut dire que c'est pendant l'étude. Alors là, c'est le côté un peu volontariste du psaume, en disant, vous voulez vous élever à Dieu, eh bien, pendant la nuit, étudiez l'Éternel, étudiez la Bible, lisez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faut quand même, à un moment donné, certes on reçoit, mais il faut aussi y mettre un peu du sien. Et donc, pendant la nuit, travaillez, étudiez et priez. Ou alors, on peut aussi entendre la nuit autrement. Dans la Bible, parfois, et même souvent, la nuit représente l'épreuve. Le moment du doute, de la difficulté, quand on est privé de la lumière, de la joie et de l'espérance. Et donc, ce que nous dirait le psaume à ce moment-là, c'est même pendant les nuits, c'est-à-dire pendant que ça ne va pas, eh ben, il y a une chose que vous pouvez faire au moins, c'est de bénir l'Éternel et de vous en dire le serviteur. Parce que je crois que rien ne peut jamais nous empêcher de servir l'Éternel. Et quels que soient vos petits problèmes ou vos gros, eh bien, arrêtez de vous prendre la tête avec ça et dites-vous, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et je pense que c'est même une très bonne thérapie, en quelque sorte. Quelle que soit la situation, il y a toujours quelque chose que l'on peut apporter aux autres, parce que vous avez des problèmes, mais les autres aussi, peut-être même plus graves que les vôtres, et vous pouvez peut-être, si ce n'est solutionner vos problèmes, au moins aider ceux qui en ont aussi. Et donc voilà, je crois qu'il n'y a aucune situation où l'on puisse dire « la vie n'a plus de sens parce qu'elle ne m'apporte rien », parce qu'on peut toujours apporter quelque chose aux autres. Et peut-être que justement, quand c'est pendant la nuit, eh bien c'est la nuit, c'est le moment privilégié pour chercher, pour agir, et pour faire quelque chose. Et même pendant la nuit, on peut toujours bénir Dieu, alors que certains, pendant la nuit, attendent sans rien faire, que les choses se passent. Ce n'est pas une bonne méthode, en tout cas l'Évangile ne la conseille pas. C'est l'histoire que vous pourrez relire des vierges sages et des vierges folles. Il y a les vierges folles qui attendaient dans la nuit que ça s'arrange tout seul, et puis quand ça s'arrange, eh bien c'est trop tard. Et d'autres qui, pendant la nuit, eh bien, travaillent, vont chercher de l'huile pour leurs lampes et se mettent en disposition de quête spirituelle. Mais il ne faut pas en rester là. Le psaume continue en disant « Levez vos mains ». Alors là, c'est encore un impératif, « Levez les mains ». Personnellement, je n'y vois pas un appel à rallier quelques communautés charismatiques. Vous savez, dans les les communautés charismatiques ont pris en levant les mains comme ça. Je ne crois pas que la prière passe mieux suivant qu'on lève les mains ou qu'on les mette d'une façon ou d'une autre, ça n'a rien à voir. Donc je ne pense pas que le psaume invite à une attitude particulière, mais je pense que les mains, c'est évidemment l'action, c'est-à-dire vous vous présentez devant Dieu et vous dites « Voilà Seigneur, j'ai deux mains pour te servir ». Lever les mains, c'est donc d'élever son action et de préparer justement son action de pouvoir agir. Et c'est ça la sainteté, c'est de pouvoir agir. Parce que là encore, nos traductions nous trompent. Ils mettent « lever les mains vers le sanctuaire », comme s'il s'agissait effectivement d'aller adorer un lieu saint. Mais curieusement, ça n'est pas ce qui est écrit, et je ne sais pas pourquoi les traducteurs se recopient les uns les autres. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire de sanctuaire et a trouvé que c'était très bien, et les autres ont trouvé que c'était bien aussi. Il y a écrit autre chose. Mot à mot, il y a écrit « Levez les mains, sainteté ». Et donc la sainteté, c'est de lever les mains vers Dieu. Il n'est pas question de sanctuaire, je ne crois pas. Et que donc le serviteur, il n'est pas fait pour rester à écouter le maître en permanence, à l'adorer, en disant qu'il est très bon, très sympathique, qu'il aime beaucoup, que Dieu c'est son ami, et que... voilà. Mais c'est la sainteté, c'est d'élever les mains vers Dieu en disant « voilà, je peux agir ». Saint ne veut pas dire « parfait » dans le langage biblique, ça veut dire « mis à part ». Ça n'indique pas la perfection, mais l'originalité du croyant. Et l'originalité du croyant, c'est de lever les mains pour se mettre au service de Dieu. Et puis donc, à la fin, il répète qu'il faut encore bénir l'Éternel. Et le dernier verset, tout à coup, passe, n'est plus au pluriel, n'est plus au « vous », mais au « tu ». Et il dit, il te bénira, l'Éternel, il te bénira de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Alors ce « toi » m'intéresse parce que vous voyez que tout à coup, c'est pas qu'on change de personne à qui on s'adresse, mais tout à coup, on passe à quelque chose de très personnel et on n'est plus dans le collectif. En disant, allez mes amis, servez l'Éternel. Toi, là, toi, il te bénit. Parce que Dieu te connaît par ton nom et il t'appelle par ton nom, il te connaît, toi, que tu es. Alors ça peut sembler, là aussi, une formule un peu stéréotypée, mais en fait, il y a pas mal d'affirmations très fortes. La première, c'est... là encore, nos traducteurs nous trompent. Ils mettent tous « qu'il te bénisse, que l'Éternel te bénisse de Sion ». Or, j'ai beau regarder, je ne vois dans le texte original aucun subjonctif, ni optatif, ni rien. C'est un futur. « L'Éternel te bénira ». C'est pas « qu'il te bénisse », c'est dire « oui, je souhaite que Dieu te bénisse », mais cela dit, moi, j'en sais rien. C'est « l'Éternel te bénira ». C'est une certitude. Et ça, c'est quand même beaucoup plus fort. Et non seulement c'est « il te bénira », mais c'est « il te bénit ». Parce que vous savez peut-être qu'en hébreu, il n'y a pas de présent, passé et futur, il y a juste un passé et un futur. Enfin, plutôt le futur, c'est ce qu'on appelle un inaccompli, qui peut être à la fois présent et futur. C'est un présent qui s'ouvre vers le futur et un futur qui est déjà un peu présent. Et donc c'est « moi, je te le dis, l'Éternel, il te bénit ». Et il te bénira. Voilà. C'est une certitude, une promesse, une affirmation. Ce n'est pas un vœu en l'air. C'est l'Éternel te bénit et il t'accompagne. Donc cette bénédiction, vous voyez, elle est dans l'autre sens. Et c'est ce que je vous disais. On bénit l'Éternel, le serviteur s'agenouille devant son roi et le roi répond. Je te bénis. C'est-à-dire, c'est ce coup-ci, la bénédiction qui va vers le serviteur pour lui donner la vie et tout ce dont il a besoin. Et ça, c'est ce que je vous disais, c'est curieux dans ce psaume, ce mouvement ascendant et descendant, c'est-à-dire pour m'élever, je m'abaisse, et lui, il me relève, et je m'abaisse pour que ma bénédiction s'élève à lui, et lui fait descendre sur moi sa bénédiction pour me relever. Donc on est sans arrêt dans ces mouvements de va et vient, je dirais, entre Dieu et nous, et qui participe à cette dynamique de la vie et qui peuvent nous donner l'existence. Alors cet Éternel, comment me bénit-il? Tiens, à propos. Eh bien, il me bénit en tant qu'il est celui qui a fait les cieux et la terre. Là encore, encore une malhonnêteté des traducteurs, tiens. C'est drôle, c'est incroyable, mais c'est pourtant vrai. Parce que les traductions mettent toutes « Il te bénit, l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre », donc il dit « Dieu, il est très fort », donc voilà. Mais en fait, là, on n'est pas dans le passé, je vous l'ai bien dit, on n'est pas dans le passé, ce coup-ci, on est dans le présent, c'est-à-dire que le texte original a un participe présent. « Il te bénit, l'Éternel, qui est en train de faire le ciel et la terre », c'est-à-dire qu'il présente Dieu, non pas comme un créateur passé, mais comme celui qui est en train de créer. Et c'est ça que Dieu peut apporter dans notre vie, c'est qu'il est aujourd'hui notre créateur, et aujourd'hui il peut créer pour moi un cœur neuf, et aujourd'hui il peut, je dirais, m'aider à grandir, à progresser, à évoluer, à m'améliorer en quelque sorte. Et ce Dieu, il est ton créateur, il est en train de te créer, il est en ce moment une puissance créatrice dans ta vie. Et autrement dit, il y a, je crois, un Dieu à l'œuvre en tant qu'il est créateur, et qu'il peut pour toi, sans arrêt, te reconstruire, te remettre debout, te redonner la vie, te remonter en quelque sorte, et te ressusciter. Et ça, c'est vrai pour moi, je le crois, et c'est ce que l'on peut expérimenter quand on se met, je dirais, devant Dieu, en situation de recevoir de lui sa bénédiction. On reçoit de lui justement une puissance créatrice qui nous crée d'une façon nouvelle. Et c'est vrai aussi pour le monde, hein. Je crois que Dieu crée aujourd'hui le ciel et la terre, et que donc on n'est pas dans un monde figé, si vous voulez, comme l'horloger de Voltaire qui laisse l'horloge et puis l'horloge elle déraille un peu et on est bien embêté parce qu'elle déraille. Ça s'appelle le déisme, et on dit que le christianisme n'est pas déiste mais il est théiste, c'est-à-dire il croit que l'horloge n'est pas abandonnée et qu'il y a un Dieu à l'œuvre dans ce monde. Et ce Dieu à l'œuvre dans le monde, c'est-à-dire un Dieu qui, autour de moi, peut m'ouvrir des passages, il peut faire du neuf, il peut créer dans ma vie, dans le cours de mon existence, de l'imprévu. Justement, Dieu, c'est celui qui me permet d'échapper au déterminisme de ce monde désespérant tel qu'on nous le présente, avec tous ces gens qui disent « on va à la catastrophe, il va se passer ceci, et vous allez avoir ça ». Eh bien, Dieu, c'est celui qui brise les déterminismes. Il n'y a pas de déterminisme, mais le monde est en lui-même imprévu, parce qu'il ouvre, il renouvelle, il ressuscite. Certes, il guérit intérieurement, mais en même temps, il fait que l'impossible et même l'improbable peut à tout moment se produire, et que ce que nous n'imaginons même pas peut un jour devenir la réalité. Et donc, je crois que cette foi dans ce Dieu qui est en train de créer le ciel et la terre doit nous inciter à dire que l'on peut toujours espérer, et qu'il faut en même temps rester disponible pour être capable de recevoir les cadeaux que Dieu n'arrête pas d'envoyer dans nos vies et qui sont en général tout sauf ce que nous avons prévu. Et donc il faut une vraie disponibilité à l'égard de ce que Dieu offre. Et ça, on le trouve mille fois dans le Nouveau Testament avec justement ces vierges sages et ces vierges folles dont j'ai déjà parlé. Les vierges sages, ce sont celles qui restent disponibles à l'attente, et quand l'époux vient, elles le reconnaissent et elles entrent avec lui. Les folles, elles ne reconnaissent rien du tout, elles n'avaient pas prévu ça, elles ne pensaient pas qu'il viendrait la nuit, et donc elles n'étaient pas prêtes, et hop, l'occasion est passée. Ou quand on dit aussi le royaume de Dieu viendra comme un voleur au moment où vous ne l'attendez pas, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et donc il faut rester disponible, et aussi garder confiance, je crois, parce que la nouveauté peut toujours être angoissante, ça c'est vrai. Mais n'ayez pas peur, parce que le Maître qui nous bénit, il ne nous laisse pas partir sans son aide, sans viatique, sans soutien, sans escorte. Mais donc, nous ne sommes pas envoyés seuls, je dirais, dans les casse-pipes d'un monde hostile, mais nous sommes envoyés en mission et nous avons pour cette mission tout avec nous. Et nous savons que tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons en Dieu, et que quoi qu'il arrive, avec notre Dieu, nous serons toujours plus que vainqueurs. Voici la manière avec laquelle le psaume nous invite à nous élever en recevant et en élevant ce que nous pouvons de notre action vers lui pour l'adorer et le bénir et agir. Chant pour monter. Voici, bénissez l'Éternel, tous les serviteurs de l'Éternel, ceux qui se tiennent dans la maison de l'Éternel dans les nuits. Levez vos mains, sainteté, et bénissez l'Éternel. Il te bénira, l'Éternel, de Sion, lui qui fait les cieux et la terre. Amen.